Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International, une actualité dont voici les principaux titres. Budget de l'État tout d'abord, les députés ont adopté la hausse du déficit à 500 milliards de couronnes pour cette année. Économie toujours, avec le plan de relance européen, l'opposition appelle le Premier ministre Andrej Babiš à ne pas penser seulement aux intérêts tchèques. Et puis enfin sport et football, la dernière journée des play-offs du championnat tchèque a été disputée mercredi soir avec un derby pragois à Slavia Sparta qui s'est terminé sans vainqueur. On commence avec de l'économie. Comme attendu, la Chambre des députés a approuvé mercredi l'augmentation du déficit du budget de l'État pour cette année à 500 milliards de couronnes, soit 18 milliards et demi d'euros. Un projet qui était proposé par la ministre des Finances. Outre les membres du mouvement ANO et du Parti social-démocrate, les deux formations qui composent la coalition gouvernementale, les députés communistes, ont également voté en faveur du projet, permettant ainsi son adoption. Conséquence de la crise du coronavirus, il s'agit là de la troisième augmentation depuis le début de l'année pour un déficit d'un montant record dans l'histoire de la République tchèque. Pour rappel, initialement, la loi des finances qui avait été adoptée en décembre dernier tablait pour 2020 sur un déficit d'un montant de 40 milliards de couronnes, soit 1 milliard et demi d'euros. Économie toujours, les députés membres de quatre formations de l'opposition, parmi lesquelles notamment les pirates, les chrétiens démocrates et les conservateurs du parti Top 09, ont appelé le Premier ministre Andrej Babiš à soutenir le plan de relance européen lors du sommet qui se tiendra la semaine prochaine. Ils estiment que la République tchèque ne peut pas considérer uniquement ses intérêts économiques immédiats et qu'il convient de tenir compte de la condition des autres pays européens qui sont autant de marchés importants pour les exportations tchèques. Les représentants des quatre partis ont présenté leur position commune lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi, et ce avant le début de la séance au cours de laquelle devait être débattue la position tchèque dans l'optique de ce sommet européen. Près de 30% des Tchèques affirment que la situation financière de leur foyer s'est dégradée durant la crise du coronavirus, tandis qu'elle s'est inversement améliorée selon 12% d'entre eux et qu'elle n'a pas évolué pour 57%. Tels sont les principaux enseignements qui ressortent d'un sondage mené en juin auprès de 600 personnes et dont les résultats ont été communiqués ce jeudi. Plus concrètement, 4% des personnes interrogées estiment que leur situation s'est notoirement dégradée, tandis qu'un quart qualifie cette dégradation de légère. Le taux d'inflation moyen des prix du logement au cours du premier trimestre de cette année s'est élevé à 9,5% en République tchèque, selon les données publiées par Eurostat ce jeudi. Et parmi les pays membres de l'Union européenne, la République tchèque affiche la sixième plus forte inflation selon l'Office statistique de l'Union européenne. Pour l'ensemble des 27, le taux moyen de cette inflation s'est élevé à 5,5%. Dans la région, la Slovaquie, l'Estonie ou encore la Pologne affichent des taux plus élevés encore que la République tchèque, tandis que la Hongrie, elle, a enregistré une légère baisse. Un mot de sport, la dernière des 5 journées des play-offs du championnat de République tchèque de football dans le groupe pour l'attribution du titre de champion et des places européennes a été disputée mercredi soir. Dans un match sans plus aucun enjeu, le traditionnel grand derby pragois entre le Slavia et le Sparta s'est achevé sur un résultat nul et vierge, 0-0, tandis que le Slavia a conservé son titre de champion. Le Sparta a terminé la saison à la 3e place. Deuxième, le Victoria Plzeň a facilement disposé devant son public du Slovan Liberec. Comme le Slavia, le club de Bohême de l'Ouest disputera la phase préliminaire de la Ligue des Champions. Enfin, Jablonec, bien que tenu en échec sur sa pelouse par le Baník Ostrava 1-1, achève la saison à la 4e place et s'est ainsi qualifié pour la phase préliminaire de la Ligue Europa. On termine ce bulletin avec un mot de météo. C'est un temps d'abord chaud et ensoleillé, puis de plus en plus orageux au fil de l'après-midi qui règne sur une grande partie du territoire ce vendredi, jour de la fête des Libouchets et Amaliers. Le retour d'un temps plus froid et nuageux est attendu à compter de samedi. En attendant, les températures ce vendredi varient entre 27 degrés dans le nord et l'ouest de la Bohême et 32 degrés dans le sud de la Moravie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Anna Kubishta, Anna qui nous accompagne pour la suite de ce programme. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Nous vous parlons régulièrement sur Radio Prague International des relations entre Prague et Moscou, des relations qui ne sont pas au beau fixe ces derniers temps, en dépit de l'atavisme pro-russe du président tchèque d'ailleurs. L'arrestation de l'ancien journaliste russe Ivan Safronov, accusé par les services secrets russes de haute trahison, vient remettre de l'huile sur le feu. Il est en effet soupçonné d'avoir transmis des informations aux services de renseignement tchèques. Des fouilles se déroulent à l'heure actuelle dans un cimetière de Prague pour retrouver la dépouille de la résistante tchèque Zdena Machinova, probablement inhumée dans une fosse commune. En deuxième partie d'émission, premier épisode de notre nouvelle série intitulée « Histoire de Prague », consacrée à des monuments ou des lieux de la capitale tchèque, parfois un peu moins connus, mais surtout appréhendés sous un nouveau jour. Bonne écoute de ce programme. Arrêté le 7 juillet par les services secrets russes pour haute trahison, l'ancien journaliste de Kommersant Ivan Safronov encourt jusqu'à 20 ans de prison. Aujourd'hui conseiller presse du directeur de l'agence spatiale Roscosmos, il a auparavant écrit de nombreux articles qui ont pu déplaire aux autorités russes. Dans son communiqué très succinct, le FSB affirme qu'Ivan Safronov aurait collecté et transmis des secrets d'État sur la coopération militaire et technique, la défense et la sécurité de la Russie à un service de renseignement d'un des pays de l'OTAN. Fin de citation. Or, ce pays de l'OTAN dont il est question n'est nul autre que la République tchèque, qui se retrouve une fois de plus au cœur d'une affaire complexe renforçant les tensions avec Moscou. Alors que les autorités tchèques sont restées silencieuses sur le sujet, mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a constaté que les relations tchéco-russes s'étaient embourbées ces derniers temps. Pour évoquer cette affaire, Radio Prague International et notamment la rédaction russe de Radio Prague International a interrogé Pavel Havlicek, analyste à l'Association pour les questions internationales. Il nous donne des pistes pour comprendre les charges qui pèsent sur Ivan Safronov.
Je pense que cette accusation sert à deux choses différentes. D'abord, à une escalade des tensions, c'est-à-dire une façon de provoquer un conflit qui peut servir les intérêts de la Russie. Ce sont des choses que la République tchèque ne peut pas influencer. Il peut s'agir d'un malentendu, d'un concours de circonstances, mais je ne pense pas que ce soit cela. Si l'on regarde les relations bilatérales entre la Russie et la Tchéquie, qui sont aujourd'hui particulièrement mauvaises, cet incident cadre avec le contexte actuel. Ce qui est plus important, c'est que cet incident envoie un signal clair à l'opinion publique russe, aux journalistes russes et aux représentants de l'opposition russe. Nous voyons qu'après le récent référendum du 1er juillet, les services secrets russes, le FSB, envoient des signaux clairs aux acteurs indépendants de la société russe. La situation a changé, les règles du jeu également, ce qui auparavant n'était envisageable que dans certains cas, comme le fait de s'appuyer sur la législation antiterroriste contre certains journalistes, devient aujourd'hui la norme en Russie. C'est vraiment très inquiétant.
Que pensez-vous de la véracité de cette accusation qui pèse sur Safronov? A-t-il pu transmettre des informations au service de renseignement tchèque ou est-ce un simple prétexte?
Il est important de comprendre que nous n'avons pas assez d'informations. Quand des services secrets sont impliqués d'une manière ou d'une autre, on le sait, le public n'a pas accès à toutes les informations. On ne peut donc pas exclure cette possibilité alors qu'il est. mais je n'arrive pas à imaginer qu'après avoir suivi si longtemps cet homme, soudain, on apprenne qu'il a transmis des informations aux services de renseignement tchèques et qu'il les aurait eux-mêmes transmis aux Américains. Je pense que c'est un prétexte pour faire pression sur les journalistes russes et sur M. Safronov lui-même. Tout cela me semble extrêmement politisé. Nous avons vu la réaction de la société et des journalistes russes qui le soutiennent et clairement. Dans la société russe, c'est clairement compris comme une forme de pression, mais à savoir s'il a collaboré ou non avec les services tchèques, vraiment, on ne peut rien affirmer à l'heure actuelle.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'actuellement, les relations tchéco-russes sont plus que tendues. Il suffit de se rappeler des dernières affaires autour de la statue d'Ivan Koniev, du monument aux soldats de l'armée de Vlassov, mais aussi de cette rumeur d'une tentative d'empoisonnement d'homme politique tchèque qui s'est avérée un mauvais canular et qui a conduit à l'expulsion de deux diplomates russes, qui sont d'ailleurs considérés en réalité comme des agents russes. D'où vient selon vous cette escalade des tensions entre Prague et Moscou ?
Pour moi, il faut remonter en réalité à 2009, quand la République tchèque négociait l'installation de ce fameux radar américain sur son sol. À l'époque, nous avons été témoins de toute une série de tentatives de la Fédération de Russie pour infléchir ce projet. C'est précisément à cette époque-là, et même plus tard, pendant la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, où nous avons dû assumer le rôle de négociateur dans le conflit gazier entre la Russie et l'Ukraine, qu'on a pu prendre la mesure du fait que la Russie n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de la Tchéquie. Bien entendu, après 2014 et l'annexion de la Crimée, les relations tchéco-russes se sont envenimées et ça continue jusqu'à aujourd'hui, sans que l'on sache vraiment si on a atteint le fond. Ce dernier incident avec Safronov montre que ces derniers temps, la Russie choisit systématiquement la Tchéquie et la considère comme le maillon le plus faible de l'alliance occidentale et de la communauté transatlantique. Nous sommes constamment dans le viseur des services secrets russes, de leur diplomatie. C'est une tendance de longue date qui, selon moi, remonte à 2008-2009, mais qui est devenue catastrophique pour les relations bilatérales ces 6 dernières années.
En mars 2019, la ville de Prague a finalement autorisé l'exhumation de la dépouille de Zdena Machinova, le corps de cette résistante aux occupants nazis et au régime communiste, se trouve quelque part dans une fosse commune du cimetière de Diablice à Prague. C'est là, dans la partie nord du cimetière, que des fouilles archéologiques ont été récemment lancées, 64 ans après sa mort. La fille de Zdena Machinova croit savoir où la dépouille pourrait se trouver. Pour les Tchèques, le nom de Machine est d'abord lié à l'histoire de Ctirad et Joseph, ses deux frères qui, dans la foulée de leur père, résistant, torturé puis exécuté par les nazis, ont choisi de créer une organisation clandestine pour lutter contre le régime communiste. Après diverses opérations choc, ils fuient à l'ouest par Berlin, les armes à la main. Leur mère, Zdena Machinova, a également été dans la résistance pendant l'occupation allemande et emprisonnée. Au début des années 1950, elle organise une pétition demandant la grâce de Milada Horakova, députée démocrate victime des procès staliniens dont on vient de commémorer la mort. Pour cette raison et pour les activités de ses fils, Zdena Machinova est alors condamnée à 25 ans de prison pour espionnage et haute trahison. Déjà gravement malade et incarcérée dans des conditions effroyables, elle meurt le 12 juin 1956 et est enterrée dans une fosse commune à Prague. Aujourd'hui, une simple pierre tombale rappelle sa mémoire, mais sa dépouille n'a jamais été retrouvée. Sa fille, qui se nomme également Zdena Machinova, a confié à la radio tchèque qu'elle pensait savoir où elle se trouve.
Je sais où elle se trouve depuis les jours qui ont suivi sa mort. Je me suis retrouvée au cimetière de Diablice totalement par hasard. Et également par hasard, j'ai appris par une personne anonyme qui ne s'est pas présentée où se trouvait l'endroit.
Toto místo.
Il n'existe aucune trace écrite indiquant où la dépouille de Zdena Machinova a été enterrée. La seule chose en possession des archéologues est une déclaration faite par des fossoyeurs datant de 1968, Jan Havrda de l'Institut des Monuments Nationaux.
Ils décrivent comment les gens étaient enterrés dans cette partie du cimetière dans des fosses communes et ils estiment à 70 ou 72 le nombre de ces fosses.
Les archéologues pensent que la dépouille de Zdena Machinova pourrait être dans la partie supérieure de la fosse portant le numéro 52.
Nous allons dégager une surface d'environ 2,5 mètres sur 2,5 mètres. Nous espérons ainsi pouvoir révéler les contours de la fosse. Mais comme nous ne savons pas exactement où celle-ci se trouve, ça devrait devenir un peu plus clair pendant le processus d'exhumation.
Jan Havrda est l'archéologue qui s'est chargé en 2014 de l'exhumation de la dépouille de Josef Toufar, prêtre torturé à mort par les communistes au début des années 50. Des tests ADN ayant confirmé son identité, il a ensuite été enterré en 2015 au cimetière de son ancienne paroisse de Tchihoshch. Ces tests ADN sont également nécessaires pour confirmer celle de Zdena Machinova, le cas échéant. Si l'issue de ses recherches s'avère positive, sa fille pourra enfin accomplir ce pourquoi elle bataille depuis les années 90, offrir une tombe décente à sa mère dans le caveau familial d'une petite commune de Bohême centrale.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Comme les autres villes historiques européennes, Prague vit une saison estivale très particulière, sans tourisme de masse. Pour tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer dans la capitale tchèque en cette période post-confinement, Radio Prague International a préparé une série de reportages qui permettent de découvrir ou redécouvrir quelques-uns des hauts lieux touristiques de Prague, ainsi que des histoires et légendes qui s'y rattachent. Premier arrêt du parcours, l'église Notre-Dame de la Victoire, qui abrite la célèbre statuette de l'enfant Jésus de Prague, un reportage de Magdalena Hrozinkova.
Pour secouer un peu ma clôture hivernale, j'ai fait un court voyage à Prague ce printemps. J'ai rendu visite à l'adorable enfant Jésus dans sa jolie église baroque, toute recueillie à l'ombre des marronniers roses. Vêtu de rouge éclatant, il avait l'air d'un grand coquelicot, d'un saint moisson de cierge. Je lui ai recommandé ta petite famille, a écrit la poétesse française Suzanne Renaud à sa nièce en mai 1952, depuis sa demeure de Petrekov dans les hauteurs tchèques. Morave, où elle vivait avec son mari tchèque, Bohuslav Rejnek. L'église où repose la petite statue de cire de 45 cm de haut, devenue symbole de la capitale tchèque dans le monde, se trouve au cœur de Prague et pourtant elle n'est pas facile à trouver, comme l'explique le guide Šárka Gandalovičová.
Quand on dit aux étrangers l'enfant Jésus de Prague, la plupart d'étrangers voient la statuette miraculeuse de l'enfant Jésus. Néanmoins, si vous la cherchez, comme les étrangers à Prague, il faut poser la question aux Pragois autrement. Vous ne devez pas demander l'église de Notre-Dame de la Victoire où la statue se trouve, où elle est abritée, mais vous devez vraiment simplement demander l'enfant Jésus. De la raison prosaïque, nous avons à Prague deux églises de même patrocinium, Notre-Dame de la Victoire. Et les Pragois, pas très croyants et pratiquants, ne connaissent presque jamais les appellations des églises, sauf plus importantes. Donc, si vous posez la question « Où est Notre-Dame de la Victoire ?», il est bien probable que les Pragois vous indiquent une église toute petite, les lieux de pèlerinage, qui se trouve au terminus de tramway 22, Bila Hora, parce que c'est là où s'est déroulée la fameuse bataille de la Montagne Blanche en 1620, qui signifiait le grand changement politique, parce que c'est la victoire de la Ligue catholique contre la Confédération des États protestants.
L'histoire de l'enfant Jésus de Prague et celle de l'église Notre-Dame de la Victoire, qui l'abrite, située quant à elle dans le quartier de Malastrana au pied du château de Prague, sont aussi liées à ces batailles qui représentent un changement politique majeur pour les pays tchèques à l'époque. Dans le cadre de la recatholisation du pays, l'église qui appartenait aux luthériens allemands est donnée à la disposition des carmes déchaussés. C'est en 1628 que les pères carmes reçoivent de la part de l'aristocrate Polixène de Lobkowitz un précieux objet de culte, une statuette de l'enfant Jésus.
Je ne sais pas si c'est tout à fait correct de l'appeler l'enfant Jésus de Prague, parce que la statuette à cause de laquelle plein de gens viennent maintenant dans cette église à Malastrana, elle est d'origine espagnole. Elle a été créée en Espagne, disons, vers la moitié du XVIe siècle, si c'était légèrement avant ou après, difficile de dire, mais grâce au mariage d'une femme noble espagnole, Maria Mandríguez de Lara, qui s'est mariée avec le comte Vratislav de Bernstein. Cette statue est venue à Prague. Ici commence son histoire pragoise. Dans la famille de Bernstein, la statue est restée jusqu'à un moment quand cette dame espagnole a décidé de la donner en tant que dot à une de ses filles, Polixena de Lobkowitz. Et Polixena, grande catholique importante, elle a fréquenté souvent l'église des Pères Carmes à Malastrana de Notre-Dame de la Victoire. Et là, elle a demandé le vœu très important, ce qui était pour elle l'essentiel, avoir un enfant, parce que son premier mariage était sans enfant et deuxième longtemps aussi. Et c'est la raison pourquoi elle a prié souvent dans cette église à la Sainte Vierge, qui est la patronne de l'église. Et parce que son vœu a été exaucé, elle a donné en 1628 comme le cadeau à cette église la statuette de l'enfant Jésus.
Des touristes du monde entier, notamment espagnols et italiens, ainsi que des tchèques, sont toujours très nombreux à venir se recueillir au pied de la statue placée dans une magnifique châsse de vermeil à droite de l'entrée de l'église. Plusieurs légendes sont liées à cet objet considéré comme miraculeux. On écoute Sharka Gandalovicheva.
Une légende nous dit que la statue, elle est l'œuvre, elle a été créée par un moine. En Espagne, la légende, elle dit qu'il a voulu créer la statue avec le vrai visage de Jésus. Comme la matière, il a utilisé le bois couvert de la cire. Et cette statuette qui a vraiment produit les miracles est, grâce à l'histoire déjà racontée, transférée au pays tchèque. Et au pays tchèque, elle a continué à faire des miracles. Donc, très connue est par exemple la légende que pendant la guerre de 30 ans, la statue a été perdue parce que les Saxons protestants qui attaquaient Prague en 1631, ils ont abîmé l'église, ils ont pillé l'église et la statue était perdue. Et après, quand la situation après la guerre de 30 ans s'est calmée, les carmes l'ont retrouvée. Il y avait un religieux qui l'a trouvée parmi les choses rejetées. Mais elle a été abîmée, elle a perdu les mains. Et d'après la légende, il a prié devant la statue et la statue lui a dit qu'elle va continuer à protéger Prague et les pères carmes, mais si on lui fait les nouvelles mains. Donc on l'a fait et elle a prétendument aussi sauvé Prague devant les Suédois à la fin de la guerre de 30 ans.
Une autre disparition mystérieuse de la statuette du Pražské Jezulátko, comme on appelle en tchèque l'enfant Jésus de Prague, date de l'époque communiste. Pavel Pola, prieur du couvent des Carmes à Prague, raconte.
On me demande souvent si la statue exposée dans notre église est un original ou une copie. Si vous pouviez la voir de près, vous n'auriez aucun doute. C'est un original, une statuette très ancienne et maintes fois rénovée. Sous le régime communiste, quelqu'un l'a dérobée. On n'a jamais su qui c'était. Selon certains, on voulait la vendre à l'étranger. Heureusement, elle a été retrouvée en quelques jours du côté de la colline de Petřín à Prague.
Ale vrátili někde na Petřín, takže tam ji pak někdo jakoby našel na Petříně.
Pour remercier l'enfant Jésus de Prague, exprimer leur gratitude pour le soutien qu'il leur a apporté et les miracles qu'il leur a accomplis, les gens ordinaires ainsi que des personnalités connues lui ont cousu une centaine de robes. Certaines sont toujours utilisées, d'autres, comme celle cousue et brodée par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, sont exposées dans un musée dédié à l'enfant Jésus et situé dans l'enceinte de l'église. Expulsés de leur église de Malastrana à la fin du XVIIIe siècle, les pères Carmes n'y sont revenus qu'en 1993. La première communauté qui a commencé à rénover l'église Notre-Dame de la Victoire après la Révolution de Velours était italienne. Au fil des années, elle est devenue internationale. Actuellement, elle est composée de frères tchèques, indiens et italiens. Grâce à eux, l'église et le couvent sont devenus un lieu de rencontre recherché des fidèles tchèques et étrangers, un lieu où sont organisés des exercices spirituels, débats, expositions et spectacles. Comme nous le raconte le père Pavel Pola.
Nous voulons que les gens puissent se rencontrer ici, échanger, qu'ils puissent vivre chez nous une certaine expérience spirituelle inédite, une sorte de renouveau. Pour beaucoup de fidèles, l'enfant Jésus représente un Dieu dont il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas un Dieu tout-puissant qui juge et punit. Ici, il découvre un autre Dieu, un Dieu discret, fragile, avec lequel on noue une relation particulière, comme avec un enfant.
Touche peu à peu à sa fin. Je vous rappelle qu'en plus de cette toute nouvelle série touristique de l'été, Radio Prague International vous propose également une série consacrée aux femmes illustres de l'histoire tchèque. Et aujourd'hui, cette femme, cette héroïne, il s'agit de Meda Mladková. Meda Mladková, collectionneuse d'art, mécène et fondatrice du musée Kampa à Prague, qui abrite une large collection d'art moderne d'Europe centrale. Après le coup de Prague, en 1948, elle a vécu en exil pendant plusieurs décennies et a fréquenté l'élite intellectuelle et artistique tchèque dans les années 1950. Meda Mladková a commencé à collectionner les œuvres du peintre tchèque František Kupka. C'est la fin de cette émission de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de l'avoir suivi. La suite de l'info en français, ça se passe sur les réseaux sociaux. Je vous invite à consulter notre page Facebook, notre compte Twitter et puis aller consulter également les photos de notre compte Instagram. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy.